Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour madame et monsieur, et merci de nous écouter sur Canal Académie, la première radio web francophone. Nous avons aujourd'hui le bonheur, et je pèse bien mes mots, le bonheur de vous présenter l'exposition de l'été 2010 du Château Royal de Blois, exposition intitulée « Fêtes et crimes à la Renaissance, la cour d'Henri III ». C'est tout un programme, vous comprendrez. Pierre-Gilles Giraud, commissaire de l'exposition et conservateur adjoint du château de Blois, a eu l'amabilité de venir jusqu'à notre studio et nous nous réjouissons de l'accueillir. Bonjour Pierre-Gilles Giraud.
Bonjour.
Organiser une exposition évoquant la figure d'Henri III à travers la vie de cour dans la seconde moitié du XVIe, quel gageur! Le sujet en soi est un événement. Henri III, c'est un des rois les plus absents de la mémoire nationale et c'est l'un des plus décriés. Citons quelques-unes des imprécations classiques qui s'acharnent sur le personnage. Légende noire, légende rose, mauvais fils, mauvais mari, mauvais tacticien, mauvais catholique, souverain exécrable. Enfin, je m'arrête là, mais en fait, on va dire mauvaise réputation, tout simplement. Pierre-Gilles Giraud, pourquoi consacrer une exposition à Henri III, le dernier des rois valois, en cette année 2010 où l'on commémore le régicide d'Henri IV? On sait, et on en parlera tout à l'heure, qu'Henri III aussi fut assassiné. Et pourquoi le château de Blois est-il emblématique du règne d'Henri III?
Alors vous avez raison d'évoquer l'assassinat d'Henri IV, puisque c'est effectivement cet anniversaire qui est le point de départ de notre projet. De nombreuses commémorations, de nombreuses expositions évoquent la personnalité d'Henri IV, mais cette célébration d'Henri IV se fait évidemment souvent aux dépens de son prédécesseur. D'ailleurs, toute la légende d'Henri IV a été construite un petit peu sur une mauvaise image, celle que vous avez évoquée, de son prédécesseur, le dernier des Valois, Henri III, présenté trop souvent comme un souverain qui, pour aller vite, on dira fin de race, dégénéré,
décadent,
incapable politiquement et sur tous les plans que vous avez évoqués. Or, c'est une personnalité beaucoup plus intéressante et qui mérite qu'on y revienne. D'ailleurs, les travaux universitaires depuis, disons, une trentaine d'années ont beaucoup, sinon réhabilité, du moins revisité le règne d'Henri III et sa personnalité de façon à faire émerger des traits jusque-là méconnus. Mais malheureusement, ces recherches universitaires ne sont pas encore passées dans la connaissance commune.
Je crois qu'on l'appelle maintenant le roi des contraires.
Le roi des contraires, oui, parce que c'est un souverain paradoxal. Donc il règne sur la France de 1574 à sa mort en 1589. Et durant tout ce temps, c'est un peu ce qu'évoque notre titre d'ailleurs, le titre de notre exposition, « Fêtes et crimes à la Renaissance », son règne sera traversé d'aspirations contradictoires, d'événements contradictoires. Lui-même est à la fois un roi très pieux, mais qui passera pour hypocrite. C'est un roi qui espère pouvoir régner, célébrer la monarchie à travers la fête, à travers les fastes de la cour, mais qui ne parviendra pas, par exemple, à mener à bien des grands chantiers parisiens comme celui du Pont Neuf. On crédite à juste titre Henri IV de l'achèvement du Pont Neuf.
Il faut dire qu'il était mort avant.
Mais il est mort avant, mais le début du chantier a été lancé par Henri III. Mais évidemment, les troubles de son règne n'ont pas permis que ce soit un roi bâtisseur, à l'instar de son grand-père François Ier ou de son successeur Henri IV.
Alors, revenons à Blois.
Alors, pourquoi évoquer Henri III à Blois? C'est que le souvenir du roi s'y attache en plusieurs circonstances. Notamment, il y a convoqué par deux fois les États généraux, donc la représentation, parce qu'il n'était pas encore une représentation nationale, mais des trois États, en 1576 et en 1588. Et puis, c'est évidemment là le théâtre d'un des drames célèbres de l'histoire de France, celui de l'assassinat ou de l'exécution du duc de Guise.
Oui, ça, vous avez un langage diplomatique. Assassinat selon du côté où on se retrouve ou exécution. Mais Henri III n'a pas assassiné que le duc de Guise, il a assassiné son frère aussi, ou il a exécuté, pardon, son frère aussi, à ce moment-là.
Alors c'est même probablement sa principale erreur politique, ce qui a précipité la fin de son règne dans le chaos. Se débarrasser d'un adversaire politique, mon Dieu, ça n'est pas très honorable, mais il y avait des précédents d'un adversaire laïque, j'entends. Faire tuer le frère du duc de Guise, qui était cardinal, donc s'en prendre à un homme d'église... Pour le coup, c'est quelque chose qui n'a pas été admis, ni par le parti des Guises, la Ligue, le parti ultra-catholique qu'ils animaient, ni même par l'ensemble des catholiques français. Donc en faisant tuer par des spadassins le cardinal de Lorraine, le jeune frère du duc de Guise, Henri III s'est mis à dos une bonne partie de la population française, et notamment les Parisiens.
Alors, cet assassinat, c'est en 1588.
Il a lieu effectivement, celui du duc de Guise, le 23 décembre 1588, et celui de son frère le cardinal, le lendemain, le 24 décembre 1588. Curieux cadeau de Noël.
Alors, bien sûr que nous allons avoir beaucoup d'événements et de thèmes à évoquer, mais puisque nous sommes dans cette histoire du duc de Guise et des années 88-89, je pense... à l'assassinat de Henri III, le 1er août 1589. Mais auparavant, il y avait eu la journée des barricades. Or, c'était en mai 1588 et nous sommes, les amateurs d'histoire, beaucoup plus habitués aux barricades parisiennes du 19e. Pierre-Gilles Giraud, que s'est-il passé en mai 1588 pour qu'il y ait déjà une journée des barricades à Paris?
Alors c'est une journée effectivement fondatrice, puisque même le mot de barricade vient de l'empilement de barriques et de barils qui ont eu lieu pour la première fois en cette journée du 12 et du 13 mai 1588. Je vous l'ai dit, le roi de France Henri III était en butte au parti montant du duc de Guise, la Ligue, qui essayait de retrouver une influence à la cour et d'exercer le pouvoir aux dépens du roi. Donc le roi Henri III avait interdit l'accès à la capitale au duc de Guise, mais celui-ci a enfreint l'ordre royal et a fait une entrée triomphale dans Paris le 12 mai 1588. Henri III, qui est alors au Louvre, craint pour sa vie, craint un complot. Les Parisiens se rebellent contre les troupes que le roi fait appeler dans la ville. Et donc les Parisiens se barricadent pour empêcher la circulation des troupes. Ils craignent une Saint-Barthélemy des catholiques, c'est la rumeur qui court à ce moment, et donc se révoltent contre les troupes royales, contre les troupes fidèles au roi. Et le lendemain, 13 mai 1588, le désordre est tel que le roi craint pour sa vie et prend la fuite, littéralement, vers Saint-Cloud, puis vers Chartres. Il passera les mois suivants donc à Chartres, puis à Rouen, avant de se rendre à la fin de l'année 1588 à Blois, où il a justement décidé de convoquer les États généraux. Il espère que les députés lui permettront de reprendre la main, en quelque sorte, sur le royaume et de reprendre l'ascendant sur le duc de Guise. C'est à ce moment qu'il n'y parviendra pas, car la majorité des députés ont été désignés par la Ligue, donc par le parti catholique, farouchement hostile à tout compromis avec les protestants. Et puisque nous nous situons bien sûr dans le contexte des guerres de religion, et le roi ne verra pas d'autre issue que de se débarrasser des chefs du parti adverse, précisément le duc de Guise, Henri le Balafré, dont le père lui-même avait été assassiné.
François de Guise,
oui. Avait été assassiné en 1563 près d'Orléans par un protestant, source sans doute de la haine familiale des Guises à l'encontre des protestants. Et donc le roi Henri III ne verra pas d'autre issue que de faire tuer. La mémoire collective a retenu l'expression d'assassinat du duc de Guise. D'un point de vue strictement juridique, le roi a justifié d'ailleurs son acte a posteriori par une lettre expliquant que le duc de Guise avait comploté contre sa vie, contre la vie du roi, donc qu'il était passible de haute trahison et de lèse-majesté, et que c'est à ce titre que Henri III l'avait fait tuer. Donc là, on peut parler d'exécution. C'est un débat qui reste ouvert d'ailleurs entre les historiens, cette balance, cette hésitation entre assassinat ou exécution, mais j'avoue que je suis assez enclin à donner raison aux juristes pour parler d'exécution, mais il me manque tout de même un petit peu de formalisme juridique, quelque chose qui s'apparenterait à un procès. L'hypothèse d'un procès du duc de Guise avait été envisagée, mais le roi savait qu'il ne trouverait pas suffisamment de témoins, que tous se rétracteraient vu le pouvoir considérable, l'influence considérable qu'exerçait le duc de Guise.
Alors, à Blois, est-ce qu'on peut savoir où ça s'est passé, cet assassinat ? Est-ce que les lieux sont encore visibles ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de petite légende qui tourne autour de cet endroit précis ?
Vous avez raison. Depuis le XVIIIe siècle au moins, on montre la chambre du roi Henri III, qui est située au deuxième étage de l'aile François Ier, célèbre aile à cause de son escalier à jour, donc construite du temps de François Ier. Donc au deuxième étage se trouvent les appartements dits du roi, la chambre d'Henri III et à côté de la salle du conseil. Et on raconte, et les guides racontent depuis le XVIIIe siècle, que c'est dans cette pièce qu'a été exécuté le duc de Guise par les fameux 45 qui étaient les gardes du corps personnels du roi Henri III. Donc ce matin, au petit matin du 23 décembre 1588. Cette tradition est tellement forte qu'on raconte qu'au début du XIXe siècle, l'un des concierges venait régulièrement égorger un poulet afin de rafraîchir la tache de sang du duc de Guise sur le sol.
Il avait le sens de la mise en scène.
Il avait le sens de la mise en scène qui a été d'ailleurs poursuivi puisque la restauration des décors peints au XIXe siècle par l'architecte Félix Duban a justement exalté cette salle en multipliant les emblèmes royaux. Mais à dire vrai, quand on reprend l'analyse des textes, comme nous avons tenté de le faire dans le catalogue de l'exposition, l'emplacement paraît bien moins assuré et il est fort possible qu'en fait la chambre du roi, et donc le lieu du drame, le lieu où le duc de Guise a été tué, se soit trouvé dans une partie aujourd'hui détruite du château.
Ça fait partie des énigmes.
C'est une énigme, tout à fait.
Du règne d'Henri III, les fêtes et tragédies se sont succédées. On vient de le voir pour les tragédies, entre autres la mort de son père quand il était jeune, puisque c'était en 1559, il devait avoir 8 ans aussi, je crois.
Oui, c'est ça.
La Saint-Barthélemy, il était jeune aussi. La mort de certains de ses frères, enfin de ses frères même, de tous finalement. Et puis de son grand amour, Marie de Clèves. Donc les tragédies, oui. Les fêtes aussi. Et on a toujours accusé cette cour à la mentalité baroque des derniers Valois de fonctionner comme un théâtre. Mais n'était-ce pas le propre de la cour d'un monarque absolu de fonctionner comme un théâtre ?
Oui, Henri III est justement probablement l'un des premiers souverains français à exalter et à célébrer à mettre en scène de façon aussi systématique la cour. Il y avait bien sûr une tradition de représentation du roi. Mais jusqu'à lui, le roi de France se caractérise par la proximité de ses sujets. La cour est une sorte de grand bazar où n'importe qui d'à peu près correctement habillé peut entrer et peut même atteindre jusqu'à la chambre du roi. On a des mentions célèbres de François Ier à la messe qui se fait voler sa propre bourse lors de l'office, ou bien d'objets qui disparaissent dans les appartements royaux du fait de cette affluence. Henri III, peut-être parce que c'est l'un des premiers, peut-être le premier roi de France qui ait voyagé hors du royaume, notamment il est allé en Pologne, où il a régné quelques mois, il est revenu par la cour de Vienne, en faisant un voyage justement extraordinaire et un séjour de fête d'une dizaine de jours à Venise, puis en traversant les plusieurs villes-états d'Italie. Il a découvert d'autres façons de représenter le pouvoir. Et c'est sans doute ce qui l'a inspiré pour essayer de codifier beaucoup plus que ses prédécesseurs les usages de la cour. Et il créera un cérémonial à plusieurs reprises. Il tentera d'imposer en 1574 une barrière qui le sépare lorsqu'il est à table ou lorsqu'il se couche de ses sujets, y compris de la noblesse la plus importante. Donc celle-ci le prendra fort mal et il sera obligé de supprimer cette barrière pour ne la réinstaller que plus tard. Et lui-même rédige de sa propre main, en 1585, un nouveau cérémonial qui codifie strictement les accès aux appartements du roi, à la chambre du roi. Et c'est pratiquement ce qui sera le modèle du petit lever, du grand lever de la cour de Louis XIV.
Oui, parce que les cérémonialistes du Roi Soleil se sont inspirés des écrits d'Henri III.
Exactement, sans le dire. Louis XIV, qui cherche lui aussi à exalter la puissance du roi, qui a connu lui-même la rébellion parisienne à l'époque de la Fronde, voilà, qui l'a obligé à fuir, ce qui l'a sans doute profondément marqué, essaye de codifier également les rites et le cérémonial de la cour, et c'est donc les auteurs de l'étiquette s'inspireront du cérémonial mis en place au temps d'Henri III. Ça n'est d'ailleurs pas la seule institution d'ancien régime qu'on doive à ce souverain si décrié qu'est Henri III. Il faut songer, et nous l'évoquons dans l'exposition, qu'Henri III est également le fondateur de l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre de chevalerie le plus prestigieux de tout l'ancien régime.
Je crois que c'est en 1578.
C'est exactement le 31 décembre 1578 et la première cérémonie a eu lieu le lendemain, 1er janvier 1579, avec la réception solennelle des premiers chevaliers de l'ordre aux grands Augustins.
C'était une façon de s'allier sûrement de grands personnages, de s'assermenter de grands personnages dans une période troublée, c'était politique.
C'est bien sûr un geste politique et religieux. C'est-à-dire que les deux dimensions sont indissociables dans l'action et dans la pensée d'Henri III. La dédicace d'ailleurs au Saint-Esprit est due au fait que Henri III a été élu roi de Pologne puis est devenu roi de France à la mort de son frère aîné Charles IX lors de la Pentecôte, donc faite en l'honneur du Saint-Esprit. Et donc Henri III y a vu un signe d'élection et a célébré ce patronage, si j'ose dire, du Saint-Esprit en créant cet ordre de chevalerie qui devait regrouper 100 chevaliers tous catholiques, donc c'est aussi une façon de réaffirmer la catholicité du royaume et du roi, malgré les efforts de transaction, de compromis pour permettre une coexistence avec les protestants, mais malgré tout de réaffirmer donc la vocation catholique de la monarchie française et de s'entourer, de fidéliser effectivement un certain nombre d'une centaine de chevaliers qui lui soient dévoués et qui exercent un véritable service auprès de la personne du roi.
Est-ce que c'était cet ordre-là qui était remplacé par la Légion d'honneur de Napoléon Ier ?
Oui, on peut le dire, car l'ordre du Saint-Esprit a d'abord été imité dans toutes les cours européennes, et ensuite, bien sûr, Napoléon Ier, lorsqu'il fonde la Légion d'honneur, a à l'esprit, si j'ose dire, justement, cet ordre du Saint-Esprit. La croix, les insignes même se ressemblent. Napoléon prend garde à créer une étoile à 5 branches, mais le dessin de cette étoile s'inspire de très près de la croix de Malte, qui est l'insigne de l'ordre du Saint-Esprit, insigne dont nous exposons justement un collier, des plaques d'habits brodées, et puis un merveilleux manteau brodé des flammes qui justement rappelle la Pentecôte, à l'occasion de laquelle le Saint-Esprit descend sur les apôtres et que commémore justement tout le rituel.
Alors, dans cette maison ici, on ne pouvait pas ne pas évoquer qu'Henri III était un roi instruit, bibliophile, et qu'il a financé l'Académie du Palais en 1576, et ça serait l'esquisse de notre Académie française ?
Oui, il y avait eu quelques années plus tôt une première Académie, à l'époque de Charles IX, mais qui n'avait pas en quelque sorte de cadre officiel, et Henri III entreprend de la réunir au Palais Royal à partir de 1576 et de pensionner plusieurs membres, Philippe Desportes, Ronsard bien sûr, et quelques autres, Le Baïf, quelques autres poètes importants de cette époque, et de les réunir régulièrement. Donc il y a, l'Académie du Palais peut à bon droit passer pour le prototype, un premier modèle dont s'inspirera bien sûr Richelieu lorsqu'il créera les différentes académies.
C'est toujours étonnant de voir à quel point cette famille Valois, ces enfants de Catherine de Médicis, étaient très instruits, très raffinés. Peut-être est-ce grâce à leur mère ?
Probablement. Ils ont donc les frères aînés d'Henri III sont François II, qui a très peu régné puisqu'il règne un an et demi en 1559 à la mort d'Henri II, donc tué à l'issue d'un tournoi en juillet 1559. Donc François II ne survit à son père qu'environ 18 mois. Lui succède son autre frère, Charles IX, qui régnera lui une quinzaine d'années, jusqu'en 1574, une douzaine d'années. Et ils ont été élevés à la fois dans la famille des Valois. Faut pas oublier que leur grand-père, c'est François Ier. C'est celui qui passe pour le père des lettres et des arts, donc qui est célébré comme l'introducteur de la Renaissance en France. Son fils Henri, futur Henri II, donc a épousé Catherine de Médicis, qui est effectivement est venue en France accompagnée d'une cour italienne et de lettrés, de musiciens. Et c'est donc dans ce milieu que les jeunes enfants d'Henri II et de Catherine ont été élevés.
C'est-à-dire qu'on tombe un peu dans le baroque à cette époque-là. Donc eux aussi sont des princes baroques.
En quelque sorte, on pourrait aussi dire ils sont baroques. C'est une période baroque parce que justement elle est tout en extrême, tout en contraste, et que l'art de cette époque-là aussi amplifie par rapport au canon classique de la Renaissance inspiré de l'Antiquité, augmente les courbes, les contre-courbes, joue de surenchère. On pourrait parler aussi d'une forme maniériste, on l'emploie dans l'art. On pourrait l'employer justement pour désigner ces tempéraments excessifs des derniers Valois qui en fait incarnent si extraordinairement leur époque que précisément leur époque ne les a pas reconnus pour sien.
Oui, c'est une phrase importante pour la postérité, ce que vous venez de dire. Ils n'ont pas été reconnus.
On présente souvent les derniers Valois justement comme une époque de décadence. C'est sûrement une erreur. Ils ont été victimes d'une période dont ils n'ont pas pu maîtriser les contradictions religieuses et politiques avec l'essor du protestantisme, qu'ils n'ont pas su faire cohabiter avec la tradition catholique. Mais comme le dit justement le chroniqueur parisien Pierre de l'Étoile en parlant d'Henri III, il eût été un bon prince s'il eût rencontré un bon siècle. C'est-à-dire que nous avons avec les derniers Valois, et particulièrement avec Henri III, des souverains très politiques, très attaché au gouvernement du royaume. Henri III réunit par exemple dans un code qui porte son nom, le code Henri III, toutes les ordonnances royales antérieures, et cette compilation, cette codification juridique fera autorité pendant tout l'Ancien Régime. Donc c'est un roi qui gouverne sans doute trop dans le secret, ce qui sera et dans le secret de son cabinet, avec les quelques proches qu'il admet auprès de lui, ce qui donnera la prise à toutes les rumeurs et à toutes les légendes colportées depuis le XVIIe siècle.
Alors parlons de légende, parlons d'Henri III et les mignons, mythe ou réalité?
Alors c'est une réalité, mais on parle aussi à cette époque, et depuis le XVe siècle, Charles VII avait des mignons, le roi sacré grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. On parle aussi des mignons du pape, et on désigne à l'époque les jésuites comme les mignons de Dieu. Donc c'est dire que ce terme de mignon désigne seulement des favoris, un entourage très proche. Henri III, les mignons d'Henri III auront mauvaise presse parce qu'il a choisi pour être auprès de lui des jeunes gens issus d'une petite noblesse, notamment originaire du sud-ouest, aux dépens des princes qui évidemment ne supportent pas de voir leur place, la place qu'ils jugent leur revenir, être occupée par d'autres. Et il ne faut donc pas confondre les mignons d'Henri III avec ce que l'époque elle-même désigne beaucoup, de façon beaucoup plus explicite, comme des mignons de couchette. Nous n'en connaissons pas dans l'entourage d'Henri III, et nous conservons des correspondances, une correspondance importante d'Henri III, des lettres nombreuses, y compris adressées à ces fameux mignons. Et si on voit qu'il y a une grande intimité, une grande familiarité, un grand amour entre eux, c'est celui de la correspondance amical, c'est le ton de la correspondance amicale de cette époque.
D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais dit qu'il avait eu un grand amour, Marie de Clèves. Il a aussi été amoureux de sa femme, Louise de Lorraine.
Oui, chose inouïe. Pour un roi de France, Henri III a conclu un mariage d'amour. Sa maîtresse, ou du moins celle qu'il chérissait, Marie de Clèves, étant mort morte au moment de son retour de Pologne, lui-même choisit d'épouser une jeune princesse cadette de la maison de Lorraine, Louise de Lorraine-Vaudémont, qu'il a sans doute croisée lorsqu'il est parti en Pologne et dont il s'est épris. Et il conclut un mariage d'amour qui ne sera évidemment pas récompensé par une descendance, puisque c'est justement le drame du règne d'Henri III. Il n'obtient pas d'enfant, il n'y a aucun fils pour lui succéder.
Dans votre exposition, vous explorez la tension permanente de cette fin du XVIe. Et grâce aux productions artistiques, il y a beaucoup de toiles d'Antoine Caron, qui est un des meilleurs artistes de l'époque. Il était qualifié, et ça veut tout dire, peintre des fêtes et des massacres. Tout est résumé. Mais vous avez aussi exposé des peintres troubadours. Alors, pourquoi Pierre-Gilles Giraud, ces artistes du XIXe dans votre exposition? Et pouvez-vous parler d'Antoine Caron auparavant?
L'exposition présente et se compose de deux parties. Dans trois salles d'exposition temporaires, j'allais dire habituelles, nous avons réuni des œuvres qui évoquent le regard contemporain du règne, donc à travers tapisseries, des dessins, donc en particulier deux dessins d'Antoine Caron magnifiques, l'un qui représente l'union d'Henri II et de Catherine de Médicis entourés par leurs 10 enfants, dont bien sûr le futur Henri III, et une autre image célèbre qui a servi, inspiré d'ailleurs des fameuses tapisseries des fêtes des Valois aujourd'hui conservées à Florence, qui évoque le départ de la cour d'Annette dans un cortège improbable où on voit se succéder princes, femmes dans leur litière, et puis les animaux de la ménagerie royale. Donc qui nous permet d'évoquer ce que pouvait être le train de la cour. Le train est vraiment le mot juste, qui se déplaçait d'un château à l'autre à cette époque-là. Et puis sont présentées aussi certaines œuvres exposées en France pour la première fois, comme par exemple plusieurs portraits du roi Henri III, qui est un roi très soucieux de son image. Et à cette époque-là, les peintres du roi dessinent, nous en exposons aussi, le portrait du roi d'après le vif. Et puis ce modèle dessiné, comme les fameux dessins des clouets, sert ensuite de modèle à une déclinaison des effigies royales sur différents supports. Donc nous avons emprunté des portraits du roi, notamment des musées de Poznan et de Varsovie, exposés pour la première fois en France. Nous réunissons également pour la première fois côte à côte plusieurs tableaux sur le thème des bals de la cour. Donc l'un représentant les noces de Joyeuse, en septembre 1580, le duc de Joyeuse étant l'un des favoris d'Henri III, et un autre bal à la cour d'Henri III, où l'on voit se succéder en contrepoint des branles, donc des sortes de rondes, branle signifie bouger en ancien français, des danses telles que les branles, qui sont des sortes de rondes d'inspiration paysanne, mais aussi des danses solennelles, comme les pavanes, qui sont des danses de cortège, qui marquent en général le début des bals, les balles qui viennent scander toute la vie de la cour 2 à 3 fois par semaine. Donc voici pour les œuvres du XVIe siècle. Et en contrepoint, dans les appartements royaux, donc au deuxième étage de l'aile François Ier, là où, dit-on, le duc de Guise aurait été assassiné, nous avons réuni le regard des œuvres qui évoquent le regard que le XIXe siècle a porté sur Henri III. Le début du XIXe siècle se caractérise par une redécouverte de ces périodes, de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, un goût pour l'anecdote illustré justement par les tableaux troubadours, et il cultive, ces peintres du XIXe siècle vont cultiver en quelque sorte la veine noire, la légende noire du règne des derniers Valois, et en particulier d'Henri III. Donc le thème de l'assassinat du duc de Guise est évoqué par une toile de Charles Barthélemy Durupt, qui montre Henri III bousculant du pied le cadavre de son ennemi, flanqué de mignons aux poses maniérées. Ou bien une grande toile, même une toile immense de Hugues Merle présentée au salon de 1863, évoquant, représentant la mort d'Henri III, assassiné par Jacques Clément le 1er août 1589. Les débuts du cinéma aussi. Il y a cette redécouverte de ces époques par le XIXe siècle a inspiré le théâtre. D'abord Alexandre Dumas, que nous évoquons aussi, qui consacre un drame, Henri III et sa cour, en 1829, qui est le premier drame romantique, avant même Hernani de Victor Hugo, et qui sera joué tout au long du XIXe siècle. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir ces spectacles de théâtre.
Il faut dire qu'Henri III est un personnage romantique.
Henri III est un personnage romantique précisément par ses excès, par cette dévotion ostentatoire, par la période troublée dans laquelle il vit, par les qualités ou les défauts, ceux qu'il a eus et ceux qu'on lui prête.
Alors, nous pensons bien sûr au régicide d'Henri III, mais aussi cette année au régicide d'Henri IV. Parlez-nous, Pierre-Gilles Giraud, du temps des régicides, de ces deux rois qui, finalement, une vingtaine d'écarts, ont été assassinés.
Oui, la mort d'Henri IV, le 14 mai 1610, a éclipsé, a fait oublier le fait que 21 ans auparavant, le 1er août 1589, son prédécesseur avait déjà été tué. Deux régicides en presque en 20 ans, en 21 ans, c'est un cas unique dans l'histoire de France. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en aura pas d'autres après, sachant qu'il faut évidemment mettre à part le cas de la mort de Louis XVI, exécuté à l'issue d'un procès. Donc la mort d'Henri IV a permis, à un moment où il s'apprêtait d'ailleurs à lancer une guerre qui aurait sûrement été peu populaire, a permis à Henri IV d'entrer dans la légende et de célébrer l'image du bon roi Henri qui nous est aujourd'hui familière. Il n'en a pas été de même pour son prédécesseur, qui est assassiné par un dominicain fanatique, Jacques Clément, alors que le roi avait mis le siège devant Paris. Il résidait alors à Saint-Cloud et, connaissant le goût du roi pour les religieux, sa dévotion, Jacques Clément parvient à se faire introduire auprès de lui avec une lettre info signée du président du Parlement de Paris, Achille de Harlay, et parvient même à être autorisé à approcher le roi au plus près et donc lui plante un couteau dans le petit ventre, nous dit le journal de Pierre de l'Étoile. Jacques Clément est exécuté aussitôt par les gardes du roi, donc il n'y aura pas de procès. Et on ignore absolument s'il a agi seul ou s'il c'était le fruit d'un complot. On sait que les mêmes incertitudes pèsent sur l'assassinat d'Henri IV et le geste de Ravaillac. C'est d'ailleurs pour cette raison, à cause du précédent d'Henri III, que lors du coup de couteau de Ravaillac, le duc d'Épernon, qui était dans le carrosse d'Henri IV, mais qui était un ancien favori d'Henri III, s'est écrié tout de suite « Ne le tuez pas », afin de ne pas faire mourir tout de suite Ravaillac, afin de pouvoir l'interroger. Lui-même se souvenait du précédent de la mort d'Henri III et que l'exécution hâtive du régicide n'avait pas permis de l'interroger.
On imagine toujours la même chose, c'est-à-dire était-ce peut-être, point d'interrogation, la maison d'Espagne, était-ce peut-être toujours les jésuites. On est toujours aussi bien pour Henri III que pour Henri IV finalement. Bien que Ravaillac, le pauvre homme, ait passé 3 jours à dire qu'il n'avait, sous les douleurs atroces, aucun complice, il y a toujours un mystère encore.
Il y a toujours un mystère et puis on aime les complots.
On aime ça.
On aime ça, ça suscite l'imaginaire, des succès de librairies récents ont revisité le thème. À l'époque, on a effectivement soupçonné les jésuites, dont on peut se demander quel aurait été l'intérêt dans l'affaire, ou plus directement encore, et ce serait somme toute plus logique, la duchesse de Montpensier, sœur du duc de Guise, tuée par Henri III quelques mois plus tôt. Donc on sait qu'elle avait pris, qu'elle animait un mouvement, qu'elle a pris le parti de la Ligue, bien sûr, à Paris, et qu'elle se serait vantée de pouvoir faire tondre Henri III et le forcer à rentrer au monastère. Il n'est pas exclu qu'elle ait pu inspirer le geste de Jacques Clément. Une amusante gravure présentée d'ailleurs à la fin de l'exposition montre une adorable duchesse de Montpensier quelque peu dévêtue, usant de ses charmes pour persuader Jacques Clément de tuer le roi.
C'est des périodes qui sont tellement contradictoires que c'est très difficile. Eh bien, Jacques Clément donc est devenu un modèle de régicide. C'est ça qui est étonnant. Parce que tout de suite après le décès d'Henri IV, il y a eu bien qu'Henri IV avait des défauts, n'était pas apprécié, il y a une véritable déploration. Alors que, à la mort d'Henri III, au contraire, Jacques Clément a été mort, soit tué, soit, mais glorifié.
glorifié tout le mouvement de la Ligue parisienne, en fait le célèbre comme un martyr. Toute la propagande organisée par la Ligue à Paris depuis plusieurs mois, depuis la mort du duc de Guise, les pamphlets ont été imprimés par centaines, les gravures se sont multipliées, exaltaient également le tyrannicide, donc la mort du tyran, comme un geste légitime. Et donc Jacques Clément, après avoir tué Henri III, se voit lui-même célébré comme un héros et même comme un martyr, sa propre exécution après la mort du roi passant pour un martyr de la foi catholique.
Merci Pierre-Gilles Giraud et bon retour à Blois. Vous avez éclairé d'un jour nouveau cette période complexe de l'histoire. Votre exposition, j'en suis certaine, permettra de mieux connaître ces moments troublés dont la célébrité, je pense à l'assassinat du duc de Guise entre autres, a parfois occulté des pans entiers de l'histoire du château royal de Blois. Et les historiens expliquent que la mort d'Henri III, c'est-à-dire son effacement du jeu politique, a constitué une étape nécessaire à la réconciliation nationale et ainsi au passage vers la monarchie absolue. En ce sens, réhabilitons Henri III, ce personnage au regard de l'histoire de l'Ancien Régime. Si Jacques Clément fut un martyr, Henri III fut aussi le premier martyr royal reconstruit, dit-on.
Merci. Nous serons donc heureux d'accueillir à Blois, au Château Royal, tous les visiteurs pour découvrir l'exposition qui se poursuit jusqu'au 24 août, date anniversaire de la Saint-Barthélemy. Le château est ouvert tous les jours. L'exposition, donc, comme je l'ai dit, se tient dans les salles d'exposition temporaire de l'aile Gaston d'Orléans et dans les appartements royaux de l'aile François Ier. Elle est accompagnée également d'un ensemble d'animations, de concerts, de spectacles d'escrime également pendant les 2 mois d'été.
Avec aussi une très belle scénographie et un souci de l'ambiance musicale, dont nous allons d'ailleurs tous profiter au sein de ces différentes pauses musicales de l'émission. Au revoir.
Au revoir, merci.